Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Maradona, Maradona, para Rondo, Rondo, para Cani, Cani, para Rondo, Rondo, para Maradona, Maradona, la media luna, tiró, gol, gol.
On s'est souvent vu, affronté, et moi j'avais de l'admiration.
C'est quelqu'un qui nous a inspirés à tous, c'était un joueur unique.
Maradona a 20 millions par an, il est cadeau.
C'est un génie, et quand j'ai joué ce soir-là en 86, bah j'ai dit putain, Louis, fais attention à ne pas le blesser. Hein.
C'était un joueur qui était très petit, donc il était surtout incontrôlable.
Un amour du ballon, un amour du jeu, un amour du foot qui était invraisemblable.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 15e de la saison. Comme chaque samedi soir, le meilleur de l'expertise et du décryptage pour tous les publics. Ce soir, une partie de l'émission, vous l'aurez compris, sera consacrée à Diego Maradona. Vous avez pu entendre Michel Platini, Charles Bietri, Luis Fernandez, Zinedine Zidane, Diego Maradona lui-même et les commentaires évidemment des radio reporters argentins. Diego Maradona décédé mercredi dernier à Buenos Aires. Et cette question centrale, question tout à fait centrale, faut-il admirer la main de Dieu autant que les deux pieds de la star argentine? Dans la seconde partie dont fait le match, le PSG qui reçoit ce soir Bordeaux, est-il en train d'écorner son image? Thomas Tuchel est-il le principal responsable de la situation? Nous verrons cela avec le baromètre Odoxa RTL Winamax. Le reste de l'actu évidemment, et notamment Marseille. Actuellement, l'Olympique de Marseille joue contre le FC Nantes au Vélodrome et les Marseillais mènent par 3-0. Il reste encore un bon 3-1 désormais. Ouais, ouais. 3-1 désormais. Il reste encore un bon quart d'heure de jeu. Voilà donc pour ce sommaire dont refait le match. Et puis surtout avant 20h, RTL Foot, bien sûr. Avant RTL Foot, hommage à notre ami Christophe Dominici, notre consultant rugby. Vous le savez, il intervenait à de nombreuses reprises avec la bonne humeur et l'expertise qu'il caractérisait aux côtés de Jean-Michel Rascol dans les émissions foot du samedi. Et quel plaisir vraiment nous avions à échanger avec les auditeurs, avec vous tous. Tout à l'heure, donc, le service des sports vous proposera mon demi à moi. Philippe Sanfauche, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Chef de la rubrique du foot sur RTL. Cindy Colmenares, la voix ensoleillée sud-américaine dont refait le match, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui en France, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Florian Gazan, RTL, la grosse cote, chaque samedi, 8h sur RTL, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
On fait le match filmé sur RTL.fr ou via l'application toute nouvelle RTL. Et vos messages, le compte Twitter, @RTLFoot, les messages relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Salut Christian, bonsoir à tous.
A tout de suite. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
J'ai connu, il avait 17 ans. On a joué notre premier match. On avait fait reste du monde contre l'Argentine en 79. Et puis après, on s'est souvent vu affronter. Et je l'ai suivi pratiquement depuis 1979. Moi, j'avais de l'admiration, puis il y avait certainement de la rivalité. On peut pas avoir été au sommet tous les deux, jouer les Coupes du Monde pour les gagner, jouer les titres avec la Juventus, lui avec Naples pour les gagner, et puis pas être rivaux.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Le seul personnage vivant, connu de toutes les couches de la société du monde entier, dans tous les pays du monde entier, c'est Maradona. Moi, si j'ai Maradona, faites-moi confiance qu'il y aura des parfums, des eaux de toilette, des compagnies aériennes qui porteront leur nom. Maradona a 20 millions par an, il est cadeau.
Maradona, c'est cadeau, il est cadeau. C'est une phrase culte de Bernard Tapie. À chaque fois qu'il faisait un transfert pour l'Olympique de Marseille, il y avait toutes les bonnes âmes, évidemment, qui lui rappelaient « c'est cadeau votre transfert, car Maradona, c'était cadeau ». Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Florian Gazan, Cindy Colmenares. Il aurait pu jouer à Marseille. Hugo Hamelin, bonsoir.
Tous.
C'est cadeau Maradona, mais il n'a pas joué à Marseille.
Voilà, il aurait pu jouer, mais malheureusement non, il n'a pas joué ici. Mais on se rappelle en 2009, il était venu en tant que sélectionneur de l'Argentine face à l'équipe de France ici au Vélodrome, et ça avait été la folie. Tous les Marseillais l'avaient encouragé, plus que les Bleus d'ailleurs, pour vous dire qu'il était adulé ici. Il y a d'ailleurs un tifo à sa gloire aujourd'hui dans le virage sud. Adios Dieis avec le portrait de Maradona ici au Stade Vélodrome.
Ah, vous avez un Maradona actuellement, c'est Dimitri Payet avec l'Olympique de Marseille qui mène 3 buts à 1 face à Nantes.
Quitter le studio.
C'est Maradona.
Comment ça se passe?
C'est un petit Maradona. Bah, réduction du score du FC Nantes, 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille, mais réaction des cadres de l'OM après les humiliations en série en Ligue des Champions, ça c'est intéressant. Payet, Thauvin et Benedetto ont marqué contre le FC Nantes, Benedetto sur pénalty.
Et en Ligue 2, cet après-midi, Grenoble et le Paris FC ont fait 0-0. Toulouse-Niort, Toulouse a battu Niort 2-1. Antenne ouverte, un fil rouge évidemment sur ce match entre Marseille. Il reste combien de temps à jouer, Hugo?
Il reste 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Avec un peu de temps additionnel. Intervention dès que vous le souhaitez, bien évidemment. Avant d'entendre Diego Maradona, messieurs, madame, une toute première impression d'ailleurs, pour bien situer un peu l'état d'esprit de ce débat qui va nous animer. Philippe Sanfourche, vous en pensez quoi, Diego Maradona? On est pour, on est contre, on est mitigé?
Totalement pour, mais ça on va avoir l'occasion d'en discuter. Moi je voudrais déjà rebondir sur cette anecdote de Marseille, parce que je trouve que Bernard Tapie, pour le coup, il y avait quelque chose de visionnaire, c'est-à-dire que il avait appréhendé la chose un peu comme si le PSG aujourd'hui engageait Neymar, c'est-à-dire qu'il a tout de suite compris que Maradona c'était le joueur et c'était tout ce qui va avec. Quand il cite son exemple du parfum et de la compagnie aérienne, c'est outrancier, mais c'est exactement ça, la dimension du joueur marketing. À l'époque c'était pas les termes, mais ce qui pouvait devenir au-delà du football et ce qui fait ce qu'on voit aujourd'hui, cette outrance autour du personnage, elle était perçue par Bernard Tapie. Faut se souvenir qu'à l'époque on avait le droit qu'à 3 étrangers et que Bernard Tapie voulait gagner déjà la Coupe d'Europe des clubs champions et qu'il avait déjà des sacrés joueurs dans son équipe, donc c'était un vrai choix stratégique. On pouvait pas empiler les joueurs, et au départ il était contre. Au départ, il était contre, mais ensuite, il s'est résolu à l'idée que c'était une grande idée parce que ça pouvait aussi faire grandir son club de manière magistrale.
Et Dominique Cévra, qu'on connaît l'histoire, Michel Hidalgo est parti à Naples, finalement, ça n'a pas pu se faire. Il semblerait que la Camorra se soit également mis dans le dossier, ça a été extrêmement compliqué. Et tout était finalement de la faute de Michel Hidalgo, après, le pauvre.
Oui,
le
il
pauvre.
A porté un petit peu le chapeau pendant...
On est pour ou contre? Alors vous,
Maradona, oui. Je suis effondré, Christian. Je suis effondré, mais de toute façon, ça devait finir comme ça l'année 2020. Moi, mon chanteur préféré, c'est Christophe, et mon joueur préféré, c'est Maradona. Donc, vous voyez, l'année 2020.
C'est qui ton comédien préféré pour ça?
J'ai perdu Christophe, j'ai perdu Maradona. Donc, l'année 2020, ça devait finir comme ça. C'est pas possible. C'est une année vraiment horrible. Il y a pas, voilà, le virus handicape nos vies, et puis voilà, la mort de Maradona, ça, c'est mon enfance, c'est mon joueur préféré, c'est mes émotions. Le foot, ça remonte à l'enfance, c'est une émotion qui remonte à l'enfance, et j'ai grandi avec Maradona et avec les Coupes du Monde, et forcément 86, forcément le match contre l'Angleterre, tous ces matchs là c'est voilà, c'était moi, de toute façon, je pense qu'on aura le débat, mais c'est pas le plus grand joueur de tous les temps.
On va passer la carrière,
c'est le sportif de tous les temps. Pour moi, c'est le plus grand sportif de tous les temps.
Carrément.
Ça dépasse le foot.
D'accord. On va passer la carrière de Maradona au laser. Florian Gazan, pour ou contre?
Plus mitigé que mes camarades, parce que moi, là-bas, je suis platinien. J'ai 52 ans quand j'étais gamin. Moi, c'était 82, c'est Platini. Platini après la Juve, et quand Platini était à la Juve, bah, Maradona à Naples. Donc, j'étais plus platinien que maradonien. Après, je respecte énormément le joueur, forcément génie. Mais il est mort le même jour que Fidel Castro, le même jour que George Best. C'est un peu la bonne synthèse du personnage.
Oui, mais quand il faut voter, c'est pour ou contre? Alors là, vous êtes Jean Le Canuet, le centre des démocrates sociaux de l'époque.
Hein. Comment vous voulez qu'on soit contre Maradona? Excusez-moi. Ben je suis pour, mais un peu moins pour que mes camarades.
D'accord.
Vous voulez que je sois contre?
Cindy Colmenares. Alors Cindy Colmenares, là c'est intéressant car vous êtes d'origine vénézuélienne, bien sûr, et donc oui. La perception est peut-être un petit peu différente.
Alors, je suis pour parce que je considère qu'il manque des personnages comme ça qui étaient vrais. Que l'on soit d'accord avec lui, avec ce qu'il disait ou non, c'est un personnage qui a apporté énormément de bonheur aux Argentins. Il ne faut pas oublier qu'en 1976, quand il intègre l'équipe Argentina Juniors, c'est quand même un contexte des dictatures très meurtrières en Argentine. Donc, il était là pour apporter des bonheurs, et ce n'est pas tout à fait étonnant que quand on voit des personnes pleurer, des gens des milieux modestes sur sa tombe. C'est pourquoi? Parce que c'est peut-être les moments de bonheur dans leur vie qu'ils ont ressentis, c'est grâce à Maradona.
Il était là pour apporter du bonheur, mais c'était aussi un allié
bibitou trouvé pour la junte militaire en Argentine. C'était un vrai trésor national qu'il fallait protéger. Et il a servi tout de suite, à 16 ans, rendez-vous compte, pendant toute sa vie de joueur de foot, il aura servi d'alibi à tous les niveaux. Et dès 16 ans, il aura servi d'alibi pour la junte militaire argentine.
En fait, c'était un personnage quand même assez naïf. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il était toujours du côté de l'illusion, à côté des représentants d'autres pays comme Fidel Castro ou Chavez. Dès qu'il y avait ces côtés populaires anti-américains, d'aller vraiment se battre pour les peuples, ou en tout cas c'est ce qu'ils font croire, il était là. Il est toujours resté malgré tout cohérent à ces valeurs que lui il défendait, que je ne partage pas et beaucoup ne partageons pas, mais c'est un peu comme un membre de votre famille, vous voyez, parfois dans un dîner, c'est comme ça en tout cas que les Argentins les ressentent. Vous avez les tontons qui va un peu picoler, qui va vous raconter quelque chose de quand même assez étonnant où vous ne seriez pas d'accord, mais vous l'aimez parce que c'est votre tonton.
Alors on se souvient qu'en 1995, il a reçu un ballon d'or d'honneur de la part de nos confrères de France Football, car à l'époque, il n'y avait que les Européens, n'est-ce pas, à pouvoir recevoir une telle récompense. Et le 3 janvier 1995, j'ai eu l'honneur, quand même, le privilège de pouvoir poser quelques questions à monsieur Diego Armando Maradona. 1 minute 30 d'interview. Écoutez.
Non, sûrement c'est la meilleure. La meilleure parce que me llega en un moment donde.
Non, c'est sûrement la récompense la plus importante car elle arrive en fin de carrière, à un moment où on m'a obligé de quitter le football. Moi, j'avais eu un rêve, c'était d'offrir une Coupe du Monde à mes filles. Ça n'a pas été possible. Maintenant, je veux leur offrir ce ballon d'or honorifique.
Justement, ce retrait précipité lors du dernier mondial, est-ce que maintenant ces événements ont été digérés?
Non, absolument pas.
Dans la vie, il y a des choses qu'un homme ne peut jamais digérer. Je crois qu'Avelange et Blatter, ce sont des gens qui n'ont jamais rien compris au football. Et ils m'ont fait quelque chose que je ne pourrai jamais oublier.
Vous êtes toujours suspendu. Est-ce que vous rejouerez au football?
Non, jamais.
Non, en plus de m'avoir obligé de quitter la Coupe du Monde, ils m'ont suspendu pour 15 mois, donc je pense que là, j'ai été obligé de quitter définitivement le football.
Alors, mis à part votre nouvelle fonction d'entraîneur, de quoi est faite votre vie actuellement?
Ça consiste à donner de la joie à mes filles, à toute ma famille, à vivre heureux.
Hors du terrain, parfois, vous avez connu quelques petits problèmes, problèmes de cocaïne notamment. C'est terminé, vous l'avez dit publiquement. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Quand me l'explique le monde à moi, je se le vais expliquer au Seigneur.
Quand le monde pourra m'expliquer ça à moi, je vous l'expliquerai à vous.
Traduction à l'époque, Alejandro Valente, qui travaillait à France Football et qui reste d'ailleurs, qui est le patron des sports de RFI actuellement et que je salue. Voilà, donc assez fier quand même d'avoir pu interviewer. Cette interview, elle fait référence donc à l'expulsion, son exclusion de la Coupe du Monde 1990, contrôlée positif à 94 aux États-Unis, et contrôlée positif à l'éphédrine, effectivement. Et donc, il a dû quitter la compétition. Et c'est là que les ennuis se sont poursuivis, en vérité.
Mais ça, c'est un peu une guéguerre. Enfin, moi, je l'ai toujours perçu comme ça. En tout cas, l'entraîneur, les sélectionneurs à l'époque de l'équipe de l'Argentine l'a également vu comme une espèce de complot avec à la FIFA à la tête, ni plus ni moins, qu'un Brésilien.
Oui, parce qu'il parle de João Avelange, le président de la FIFA, de Joseph Blatter.
Un Brésilien, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les Brésiliens n'étaient pas peut-être dans la meilleure position pour gagner cette Coupe du Monde. À la fin, ils l'ont gagné, mais en fait, c'est un Maradona du côté de l'Argentine. Donc, ça a toujours été senti et ça ne fait qu'un peu alimenter cette rivalité qui existe entre l'Argentine et les Brésiliens.
Il y a très peu de cas de dopage dans les Coupes du Monde, alors que je pense que les joueurs de foot prennent des produits.
Vous pensez qu'on ne cherche pas assez
On ne cherche pas assez.
On cherche pas au bon endroit, peut-être.
Pour Maradona, on a trouvé en 94. Donc, tant mieux, parce que c'est mal de tricher pendant un match. Donc, tant mieux pour qu'on l'ait pris. Mais c'est bizarre qu'on l'ait pris que lui. Donc,
et puis l'éphédrine, c'est on l'a, nous, chez nous, de l'éphédrine, dans des, par exemple, des médicaments contre la grippe, les rhumes, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça peut être également assimilé à un stimulant. Pardon ?
Il était souvent enrhumé,
il avait des douleurs. Et puis, il n'y avait peut-être pas non plus que l'éphédrine. À ce moment-là, il y avait l'éphédrine.
Il ne s'agit pas de le blanchir.
Non, bien sûr.
Il avait mis un pied à côté. côté de la ligne. Il fallait qu'il revienne à un haut niveau.
Philippe
il a
Sanfourche.
Peut-être eu besoin de ça aussi pour accompagner sa préparation. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un basculement en fait dans la carrière de Maradona qui correspond à son exclusion déjà du championnat italien et après la Coupe du Monde. Et dès lors que sa carrière a basculé, elle a basculé dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, il a été arrêté en permanence quand il consommait de la cocaïne, alors qu'avant tout le monde le savait et que personne n'allait voir ça. Et même chose pour les contrôles antidopage. Donc ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, mais la perception du personnage et la façon dont il a été traité a changé du tout au tout, du jour au lendemain.
Et quand on lui pose la question sur la cocaïne, c'est bon, vous avez vu comment il me dribble. Ouais. C'est-à-dire,
ouais, c'est
le jour où la société m'expliquera, je vous laisse.
Il avait déjà une voix d'outre-tombe à votre micro. Ouais. On est en 1995, ça veut dire qu'il a 35 ans.
On était le 3 janvier, il était peut-être enrhumé.
Non, mais il a 35 ans, on entend sa voix, on a l'impression qu'il a 75 ans. C'est un personnage qui est totalement hors norme, quoi, où on perçoit la faille, la fragilité à tout moment, à tout instant, dès l'âge de 35 ans.
On savait que ça finirait mal, oui. Assez
c'est
jeune.
C'est presque miraculeux.
On s'est imaginé qu'on allait perdre autrement, en fait. C'est ça la réalité. Donc,
60 ans, c'est jeune.
Parfois,
hein.
Certains disent qu'on voit ses fragilités, effectivement, mais un personnage comme ça qui, vous savez, il a eu vraiment les poids de tout un pays et puis même de tout le monde. Il y a même quand il a été éliminé de la Coupe du Monde qu'il a dû partir.
Donc c'est bien 1994, effectivement.
Oui,
hein,
il y a eu un suicide au Bangladesh d'un supporter qui s'est suicidé à cause de ça. C'est quand même assez étonnant, un personnage qui réussit malgré tous ses poids sur lui. Il faut savoir que depuis qu'il a à peu près 15-16 ans, il supporte toute sa famille. Il y a des gens qui disent que lui, il a été le père et la mère de ses parents. Mmh. Il a dit qu'il a fait le football pour vraiment pouvoir donner une maison à sa famille. Donc tous ses poids sur lui.
Le stade Vélodrome, Hugo Hamelin.
Ouais, dernière occasion pour l'Olympique de Marseille. Un contre à 100 à l'heure avec Marley Hacquet dans la surface de réparation qui ne parvient pas à éliminer son vis-à-vis. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire, toujours 3-1 pour l'OM face à Nantes.
Le break est déjà fait, effectivement, le temps additionnel au Vélodrome. Hugo, tu nous appelles pour solder le résultat entre Marseille donc, et le FC Nantes. Je vous propose trois thématiques dans On fait le match jusqu'à 19h15. Après, on débriefera justement du match de Marseille, mais également des états d'âme de Villas-Boas. On parlera également du Paris Saint-Germain, comme je l'indiquais dans le sommaire. Mais je vous propose trois thématiques sur Maradona. Les caractéristiques du joueur, pour parler ballon, car c'est important tout de même, ce petit joueur de la taille, avec un centre de gravité, des cuisses énormes et à droit des
un
deux pieds.
Quoi.
Un pied gauche, mais un pied droit fabuleux également.
Ah bah tout, hein.
Parce que le pied droit, c'est l'extérieur du droit qui lui fait marquer le but que certains qualifieront du siècle. On parlera également, il faut savoir si, bon, il doit rentrer au panthéon du football français, mais alors par rapport à qui, dans l'échelle des valeurs, par rapport à Pelé, par rapport à Cruyff, Platini, Zidane, je vous poserai la question, et puis on reviendra sur ce que vous évoquiez, effectivement, les excès de Diego Maradona, qui ont commencé sur cette Coupe du Monde, cette fois-ci 1980.
Ah bah, il prenait de la cocaïne dès Barcelone, donc commençait très tôt.
Et puis Naples l'a enfoncé.
Ça a commencé très tôt.
Ouais. Bah, c'était là l'affaire en Italie, justement, quand on l'a contrôlé pour City, c'est la première fois, c'était en Italie.
Bah, les Italiens lui en ont voulu, car l'Italie a rencontré l'Argentine en Coupe du Monde. Le match avait lieu à Naples. On en parlera dans un instant. Les caractéristiques de Diego Armando Maradona par rapport à d'autres joueurs. Petit joueur, petit format.
Bah, il est le footballeur à l'ancienne, en fait. Le footballeur comme on pouvait le dépeindre dans les années 60, 70, jusque dans les années 80, c'est-à-dire ce petit gabarit, 1m65 ou 67 selon les mesures, enfin tout petit joueur, des cuisses énormes, et puis une capacité à changer de direction à tout instant. On parle de son pied gauche, mais son pied droit, je pense que 99% des joueurs aimeraient l'avoir aujourd'hui. En fait, c'est la technique à l'état pur. La technique à l'état pur qui ont fait qu'il a immédiatement été repéré comme un génie du jeu, un génie du football. Les anecdotes, elles sont nombreuses. Il avait 10-11 ans dans le premier club dans lequel il jouait. Il venait à la mi-temps. Les gens venaient autant pour voir le match que pour voir Diego à la mi-temps faire des séries de jongles, des choses que personne d'autre ne savait faire. Et ça a duré tout au long de sa carrière. Moi, j'ai repris il y a encore deux jours cette formidable anecdote de Gary Lineker qui parle justement d'un avant-match à Wembley avec l'équipe du reste du monde contre l'Argentine, où il y avait Platini, il y avait Rossi, il y avait Boniek, il y avait des joueurs extraordinaires. Et Gary Lineker dit, on l'a vu partir en jongle, et d'un seul coup, il a fait monter le ballon à 25 mètres en l'air, le ballon redescend sur son pied, il la relance, et ça dure 13 fois comme ça, ils ont tous essayé.
Mais c'est pas le foot jamais
réussi. Oui, mais alors, il avait quelque chose de plus, effectivement, parce que les jongles, n'importe quel joueur, enfin, il y a de très bons joueurs de jongle ou de jonglage, comme on disait à mon époque d'ailleurs, il y a eu le challenge Wanadoo au Parc des Princes, je jongle, je tire, je marque ou je ne marque pas, etc.
C'était
et
pas
ensuite,
les mêmes.
Hein. Faut pouvoir transformer cette aptitude décelée à l'âge de 10 ans, effectivement, dans une compétition de haut niveau. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait retrouver ce même type de joueur avec ces mêmes aptitudes physiques maintenant ?
Bah oui, parce que Philippe dit
actuellement.
Bah oui, Philippe dit c'est le football à l'ancienne, mais tout ce qu'il vient de dire là, j'ai cru qu'il me parlait de Lionel Messi. Mm-hmm. Petit, gaucher, franchement, tout ce que tu as dit là, technique au-dessus, décelé assez tôt. Donc pour moi, à part Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane qui sont plutôt assez grands, tous les génies de l'histoire du football, Alain Giresse, Michel Platini, Pelé, Maradona, sont quand même tous petits, sont quand même tous dotés d'une technique au-dessus de la moyenne, et ça va à l'encontre du football qu'on nous vend depuis des années sur le duel, le gabarit, le gars costaud. Regardez les joueurs qu'on cite, c'est quand même des gars qui dépassent pas 1m75, qui sont entre 1m62 et 1m75. Et ben le foot, ça, c'est souvent quand même des joueurs assez petits avec un centre de gravité assez bas.
Mais on les compare,
c'est Nicolas Ménarès.
Mais pour moi, Maradona, c'est pas un footballeur, c'est un joueur en fait. C'est un joueur. Il a joué toute sa vie, il a joué avec le ballon, il a joué avec sa santé, il a joué avec le feu, il a joué avec tout. Et sur le terrain, c'était un joueur en fait. Pour lui, il n'y avait pas de pression. Le ballon, c'était son copain. En fait, c'était un balai à deux en permanence. C'est-à-dire que quand il driblait tout le monde pour aller marquer un but, c'est pas parce qu'il n'avait pas le sens du collectif, c'est qu'il était à l'aise avec ça. C'était un gamin. Et je pense que toute sa vie, ça a été un gamin. Et son football, pour moi, il pue ça, il transpire. Ça, un gars qui s'amuse sur le terrain et voilà, qui une sorte de balai avec ce ballon et qui ira au bout du bout. Et la provocation faisait partie du jeu de Maradona. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché. Par exemple, à Neymar, on dit il va dribbler, la provoquer, mais Maradona, il aimait ça parce que c'était le but du jeu pour lui d'aller passer l'autre.
Est-ce qu'il n'avait pas, Maradona, un sens du collectif plus poussé que oui. Lionel Messi.
Si.
Cindy Colmenares.
Je considère que oui. D'ailleurs, on le voit dans ses commentaires lors de la Coupe du Monde en 94.
Toujours celle-là.
86, pardon.
86,
c'est, on mélange avec la.
Avec la victoire de l'Argentine.
Ouais. Et donc, oui, effectivement, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait qu'il n'était pas vraiment un joueur. Les joueurs pouvaient compter sur lui. C'était vraiment les numéros 10. Donc, pour lui, c'était les moments quand il y a eu cette égalisation et qu'il fallait vraiment aller marquer un autre but, de dire c'est à moi, en tant que numéro 10, d'aller trouver des solutions. Et c'est là où il passe les ballons à Bourrou, les sanguinaires, on l'appelle, c'est Bourrou Tchaga. Il fait la passe décisive, qui est une merveille. Et c'est là où il tape ses buts, qui fait qu'il y a les résultats qu'il y a.
Mais quand même, avec Naples et avec l'Argentine, il a quand même été porté, et il a été champion du monde et champion d'Italie dans des équipes en bois. Je suis désolé, on parle de Bourrou Tchaga, mais l'Argentine, à part Bourrou Tchaga, Valdano, c'est une équipe de boucher, celle de 86 qui est championne du monde. L'Italie, tout à l'heure, Florian disait, moi j'étais plutôt Juventus de Turin et Platini que Maradona et Naples. Mais la Juventus, il y avait Boniek, il y avait Platini, il y avait des joueurs extraordinaires. Et
l'Argentine, à cette époque, personne n'y croyait. Enfin, c'est la réalité.
Il a été champion d'Italie à Naples, ce qui est beaucoup plus dur que d'être avec la Juve. Il était champion du monde dans des équipes en bois. Donc ça veut dire tout le talent qu'il avait. Je ne sais pas s'il a un sens du collectif plus développé que celui de Messi.
Bah forcément, il a fédéré collectivement.
Oui.
Les scènes de vie, parce que au-delà des outrances, au-delà des fêtes et au-delà des excès d'alcool et de drogue, il y avait aussi toute cette capacité à emmener les autres avec lui et cette force qu'il arrivait à diffuser à la fois dans le vestiaire, sur le terrain, en dehors, et à faire de son club ou de sa sélection un clan absolument uni pour aller au bout.
Il a gagné un peu à lui tout seul quand même, Philippe.
Quand tu vois les scènes d'entre deux matchs en 86 pendant la Coupe du Monde, où il y avait ces espèces de banquets où il mangeait n'importe quoi, il y avait des bouteilles de pinard.
C'est pour boucher le sens du collectif, ça.
Mais non, mais c'était la vie. Bah oui, ça fait partie.
Je vois le style de vie de Philippe Sanfourche. Le Stade Vélodrome, match terminé, Hugo Hamelin.
Ouais, écoute, sifflet final, ça faisait 4 ans que l'Olympique de Marseille n'avait pas battu le FC Nantes ici au Vélodrome. C'est chose faite avec la manière, festival offensif. décisif, notamment en première période. Thauvin, Payet et Benedetto sont les buteurs marseillais. Les joueurs Christian Gourcuff ont touché la barre. Ils ont réduit le score par Ludovic Blas, mais trop timide, emporté par l'ouragan marseillais qui se rassure après cette terrible désillusion en Ligue des Champions. Ça permet à l'OM de grimper provisoirement sur la troisième marche du podium de la Ligue 1.
Merci Hugo Hamelin. Débrief de ce match après 19h. Débrief également dans RTL Foot en compagnie de toute l'équipe de d'Eric Silvestro, de Xavier Domergue et de Giovanni Castaldi. On parlait des caractéristiques de Maradona, mais parce que je pense maintenant à la façon dont on pourrait le mettre dans le panthéon du football, du football international. Avec Pelé, Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, Maradona en a gagné une seule, Zidane a gagné une Coupe du Monde, Cruyff, les romantiques du foot, Platini, Messi, Cristiano Ronaldo n'en ont pas gagné. Comment ça peut se juger, Georgé? On a posé la question cette semaine à Michel Platini. Évidemment, Platini et les autres ne veulent jamais rentrer.
Il a juste précisé qu'il était arrivé en Italie en 83 et qu'il avait gagné en 87.
Oui, mais alors ça, sur le plan national, sur le plan italien. Mais là,
Christian. On peut dire les Coupes du Monde, mais il y en a qui vont vous dire Messi, pourtant il n'a jamais gagné la Coupe du Monde, qui vont vous dire que c'est subjectif et ça renvoie à la charge d'émotion qu'on a reçue. Moi, elle a été énorme et je vous dis que Maradona, c'est le plus grand footballeur de tous les temps. Mais si vous me dites que c'est Platini, Zidane, Pelé, moi, il n'y a pas de critère, j'ai ni raison ni tort, c'est ma vision à moi. Et Cindy en aura une autre, Florian en aura une autre, ils auront tout à fait raison. Cindy.
Moi, je pense que ça dépend à qui on pose la question. Par exemple, si on demande à un Vénézuélien, il est plus probable qu'il dise Pelé parce qu'ils sont fasciné par les footballs plutôt brésiliens qu'argentins. Moi, on me demande, j'ai toujours été une amoureuse du football argentin, donc je me dis en même temps que Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. Enfin, c'est un peu, j'aime pas comparer Dieu, du coup, comme on l'appelle, à un roi. Pour moi, on a ce plaisir d'avoir ces deux monuments du football. Pourquoi les comparer? Mais par contre, si on demande par exemple un Français, je pense qu'un Français, si Zidane, que Dieu les protège, venait à partir...
Protégeons Platini aussi. Hein.
Platini aussi, imaginez, pour eux, c'est des monuments également. Donc voilà.
Alors Philippe Sanfourche, qui est Dieu et qui sont les apôtres?
Bah oui, puisque j'aime bien les banquets.
Qui est Judas?
J'ai essayé de regarder, pourtant c'est pas un exercice que j'aime beaucoup, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, mais les distinctions individuelles, les ballons d'or, mais si on regarde quand même un petit peu dans la carrière de Maradona, à quel moment il aurait pu postuler pour ce ballon d'or. On pense évidemment à la Coupe du Monde 86, je pense que là, il n'y a pas photo. Ouais. Belanov, le pauvre, aurait peut-être pas été titré à ce moment-là. 87, possible, avec le titre de Naples, mais il y avait de la concurrence. Et puis après, 90. C'est à peu près les trois années où il peut être en capacité de remporter le ballon d'or, mais pas plus. Et si, aujourd'hui, on est toujours friand de stats. Quand on regarde les stats comparées de Platini et de Maradona dans le calcio, qui était évidemment le championnat dominant, et plus que dominant, c'était plus que l'Angleterre l'est aujourd'hui. C'était vraiment, il y avait l'Italie et il y avait le reste du monde. Les stats de Platini sont supérieurs.
Mais c'est sans doute aussi du fait que Maradona considérait le foot comme sa passion et pas comme son métier, en fait. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le charme de ce joueur, ce côté romantique, ce côté excessif, à mi-chemin entre Olivier Tom et Scarface. C'est que de toute façon, il n'était pas taillé pour être un joueur de stats et pour avoir une très très longue carrière. Et sans doute qu'il n'aurait pas été aussi bon s'il n'avait pas été aussi excessif, s'il n'avait pas eu tout ce qui s'est passé à côté. Donc c'est impossible de comparer sur ce stade-là. Moi, je pense que c'est le plus grand parce que justement, il dépasse largement le football et que c'est un personnage incroyable.
Ouais. Très intéressant. On fait le match avec Florian Gazan, Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, Cindy Colmenar et sur le cas Diego Maradona qui nous a quittés donc cette semaine. On y reviendra derrière les informations de 19h. On parlera après avoir parlé de son jeu, après avoir parlé de son classement avec les autres grandes légendes du football international. On parlera aussi, car c'est toute l'histoire, malgré tout, de Diego Maradona, de tous ses excès. À tout de suite.
Un jour, j'étais avec lui à Doha, au Qatar. Et on allait voir un nouveau stade qui venait d'être construit. Et il y avait un ballon qui traînait dans un coin du terrain. Ben lui, il y avait l'émir hein, qui était là. Et d'un seul coup, on l'a vu partir en courant. Il s'est mis à jongler sur ce terrain tout seul, faire une volée plein milieu du but. Et puis se mettre à courir les bras en l'air comme s'il avait marqué un but en Coupe du Monde. Je veux dire, il avait un amour du ballon, un amour du jeu, un amour du foot qui était invraisemblable.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Il est 19h. Les informations, Aude Vernuccio, bonsoir Aude.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Marseille, Caen, Rennes, Strasbourg, Lille, manifestation dans toute la France contre l'article 24 de la loi de sécurité globale. Un texte qui pénalise la diffusion d'images de policiers en intervention. À Paris, 46 000 personnes ont défilé pour une marche des libertés, selon la préfecture. Marche émaillée de tensions, notamment en fin de cortège. Sinamir, bonsoir. On vous retrouve en direct de la place de la Bastille.
Oui, avec notamment plusieurs incendies qui ont été allumés par des manifestants autour de la colonne de Juillet. Les policiers qui se tenaient à l'écart depuis le début de cette marche ont également été pris pour cible. Certains frappés au sol dans les épais nuages de gaz. La riposte est lourde. Plusieurs charges viennent encore d'avoir lieu à l'aide de gaz lacrymogène, de grenades détonantes, de canons à hausse qui a pour effet de tendre encore un peu plus en ce moment cette dispersion dans le 11e arrondissement de Paris. Le gros des manifestants a désormais quitté la place. Il reste encore quelques centaines de jeunes militants retranchés au pied de l'Opéra et décidés à continuer d'en découdre avec les forces de l'ordre. On compte quelques blessés ce soir dans ces opérations d'évacuation de la place de la Bastille. Après cette longue après-midi de marche, ce défilé contre cette proposition de loi sécurité globale qui aura mobilisé, vous l'avez dit, des dizaines de milliers de manifestants aujourd'hui dans les rues de Paris.
Sinamir, en direct pour RTL. Par ailleurs, 9 personnes ont été interpellées à Paris en marge de cette manifestation. Des images qui nous font honte. Les mots d'Emmanuel Macron après avoir visionné la vidéo d'un producteur de musique tabassée par des policiers. Les 4 fonctionnaires mis en cause sont entendus depuis hier dans les locaux de la police des polices. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Après un mois de confinement, petits commerçants, grands magasins, centres commerciaux ont rouvert au public ce matin avec la possibilité pour les clients de flâner pendant 3 heures dans un rayon de 20 km. Vous devrez en revanche attendre le 20 janvier pour dîner dans un restaurant ou aller dans un bar. Le ministre de l'économie annonce d'ailleurs le doublement du plafond d'indemnisation à 200 000 euros par mois pour les entreprises fermées. Le MEDEF plaide ce soir pour des discussions secteur par secteur avec l'avis des professionnels de santé. La liberté du commerce et la liberté de culte sont-elles garanties de la même manière? C'est la question posée par la conférence des évêques de France devant le Conseil d'État. Et l'épiscopat dénonce la limitation du nombre de personnes à 30 pour les cérémonies religieuses. Les évêques doivent rencontrer demain le Premier ministre en fin d'après-midi. En football, 12e journée de Ligue 1, victoire de l'OM face à Nantes, 3 buts à 1 ce soir. Place à PSG Bordeaux à 21h, match à suivre évidemment dans RTL Foot. Et puis ils entreront sur le terrain avec un maillot spécial avec le nom de Domi. Les joueurs du 15 de France rendront hommage à Christophe Dominici, décédé mardi. Juste avant la rencontre face à l'Italie, une minute de silence sera aussi respectée. Match à suivre par ailleurs en fil rouge ce soir sur RTL dès 21h. Le temps demain, retour du soleil après dissipation des brouillards, des averses encore sur la Corse le matin. L'après-midi, le ciel restera nuageux sur l'île de Beauté. Comptez demain matin de moins 3 à 10 degrés en moyenne. L'après-midi, vous aurez de 4 degrés à Strasbourg, 8 à Clermont-Ferrand, 16 à Nîmes et jusqu'à 19 degrés à Ajaccio pour la maximale. Et puis les courses, elles auront lieu demain à Auteuil. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, l'As, le 9, le 10, le 2, le 6, le 4 et sa dernière minute, le 2. Galant Duchenet.
Prochaines informations, 20h.
A tout à l'heure.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
C'est une triste nouvelle, c'est une triste nouvelle pour le monde du football, mais le monde en général, je pense que c'est quelqu'un qui nous a inspirés à tous. C'était un joueur unique. Moi, j'ai un souvenir de 86, du mondial qu'il a fait en 86. Et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir lui dire par la suite, puisque j'ai rencontré, de lui dire qu'il a été une source d'inspiration pour tous les jeunes à travers le monde. Et pour moi, même si moi, mon idole était Enzo Francescoli. Donc voilà, c'est une triste nouvelle. On a appris ça en plus juste avant de partir de l'hôtel. C'est un moment particulier, un moment spécial et on pense fort à sa famille.
Zidane, faut-il le présenter? Faut-il le rappeler? Vous avez reconnu sa voix. On fait le match avec Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, Florian Gazan et bien sûr Cindy Colmenares. Sans oublier vos messages. Émission filmée, 100% interactive. Vos messages notamment, mais pas seulement, sur le compte @RTLFoot. Baptiste Durieux, bonsoir ou rebonsoir.
Rebonsoir Christian, effectivement, beaucoup de messages. D'abord, on parlait de Marseille en début d'émission. Thierry nous dit Maradona dans un vélodrome en feu sous une présidence tapis. C'est le fantasme ultime du supporter de Marseille que je suis aujourd'hui. Message d'Étienne, quand je pense qu'on s'est enflammé avec des Taïwo, des Souleymane Diawara, alors Maradona, à Marseille, vous n'imaginez même pas, ça aurait peut-être battu le Maradona du Napoli, nous dit Étienne. Message de Yann également, Maradona était amoureux du football, la preuve c'est ce qu'il a dit lors de son dernier match, de ne pas salir le football. Maradona pour moi c'est le football tout simplement, capable de faire gagner une équipe à lui tout seul, son talent était grand mais son aura, son charisme était encore plus grand, c'est pour ça que c'est le plus grand sportif de tous les temps. Et puis message de Sam aussi, dithyrambique sur le numéro 10 argentin, Maradona est au-dessus de la mêlée, loin devant Pelé et consorts, ne nous parlez pas de notre platoche ou du double Z Zinedine Zidane, ils ne sont pas invités, nous dit Sam.
Et dans la même phrase, je pensais pas dire Diego Maradona et Ligue 2.
Et oui, bien sûr, la Ligue 2, coup d'envoi des matchs de l'après-midi, 0-0 entre Troyes et Amiens, 0-0 entre Rodez et Guingamp, fait 0-0 sur toutes les pelouses, hein, Christian, entre Ajaccio et Chambly, Sochaux et Le Havre, Dunkerque et Pau, Caen, Châteauroux, Clermont, Nancy et Auxerre, Valenciennes. On le rappelle, le Paris FC toujours leader après son nul sur la pelouse de Grenoble et la victoire de Toulouse de Buzyn face à Niort.
Ouais, 0-0 effectivement entre Grenoble et le Paris FC. Merci Baptiste, à tout à l'heure pour la suite de la Ligue 2 et toujours pour relayer les messages assez nombreux sur le compte @RTLFoot. Messieurs, on a parlé donc des caractéristiques footballistiques de Diego Maradona, madame également. On a parlé du panthéon, du classement, donc c'est, chacun peut se faire son opinion bien évidemment. Il y a les excès évidemment de Diego Maradona, les excès qui ont fait pour certains aussi façonner une certaine forme de légende, ou pour d'autres qui n'ont pas donné l'exemple d'un footballeur au plus haut niveau. Alors je vois, quand je prononce le mot exemple, je vois tout de suite Philippe Sanfourche.
C'est un exemple, mais c'est un exemple.
L'exemplarité.
Mais c'est un exemple de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est un exemple.
Oui, condensé dans un même personnage. Mais oui, moi, je peux comprendre. Très, très franchement, je comprends que certaines personnes aient du mal à ériger Diego Maradona en véritable idole et qu'aujourd'hui, lui rendre un hommage aussi immense. On l'a vu, ça a été condensé un petit peu dans les mots de Christian Gourcuff, qui ne remet pas en cause l'immensité du joueur, mais qui ne parvient pas en fait à être transcendé d'amour comme toute une partie de la population, parce que il y a ce côté sombre que certaines personnes appréhendent mal, et je peux l'entendre, je peux le comprendre. Moi, j'arrive à en faire la synthèse, mais je peux comprendre que certains
aient mal. De génie aseptisé. Je connais Zidane. On parlait de Zidane. Il a donné un coup de boule en finale d'une Coupe du Monde. Je ne connais pas de génie qui n'ait pas une part d'ombre. Ils ont tous.
Que ça soit. Ah, mais là, c'était les éclipses plus que des ombres.
Si gentil que ça.
David Bowie, Mick Jagger, Elvis Presley. Vous prenez des Marilyn Monroe. Vous prenez des génies. Ils avaient tous une part d'ombre, des excès. Et tout à l'heure, Cindy disait, dans une famille, il y a un peu l'oncle dont on a un peu honte, qui fait partie de la famille. Ces excès-là font que ces failles-là, cette vulnérabilité, elle fait qu'on peut se reconnaître en Maradona. Parce que forcément, on se reconnaît dans les gens qui ont des failles aussi. Et on se dit, il est un peu comme nous. Alors, on n'est pas obligé de prendre de la cocaïne et de tomber dans l'alcool. Mais il y a une part d'humanité chez lui qui fait qu'on l'aime aussi pour ça.
Car écoutez, on parlait de Christian Gourcuff dans la voix de Philippe Sanfourche. Écoutez son témoignage. C'était hier en conférence de presse.
Dès qu'une personne meurt, on lui trouve toutes les qualités, enfin tous les. Sans doute, c'est un chic type, hein, je pense, je le connais pas, mais il a eu une vie qu'on peut pas mener en exemple, quoi, dans le. Enfin, faut relativiser, c'est pas parce qu'il est décédé que c'est devenu tout de suite un exemple pour la jeunesse. C'est très malsain. Le but de la main qui marque, c'est une entrave à la morale, à l'éthique sportive. De considérer ça comme un exploit et la revendication en plus de la main de Dieu, je trouvais ça terriblement déplacé.
Voilà, parce que parmi les excès, il y a ça aussi, finalement, il y a main de Dieu.
Mais c'est justement Christian, la main des dieux qui fait que c'est un personnage génial. Dans ces matchs-là, on voit vraiment qui est Maradona, parce que d'un côté c'est lui qui est footballistiquement parfait, qu'on l'admire parce qu'il arrive à passer en revue toute une défense, 6 joueurs, et d'un autre côté, quelqu'un qui est capable de tricherie, donc qui est un génie, qui va venir parler, qui a eu la main des dieux. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on l'aime, on les déteste. Mon Argentine, il faut savoir que de toute façon, Maradona, c'est un peu un fil rouge dans la vie des Argentins. Qu'on soit né ou pas, qu'on l'ait vu jouer ou pas, on connaît par exemple quelqu'un qui a un poster, on a vu des affiches autour de la famille, des bibelots, enfin, c'est vraiment dans la culture. Moi, je me souviens lorsque j'étais en Argentine, J'ai demandé avec mon père à quelqu'un qui tenait un bar, en plus un supporter du Racing, donc club où il a été entraîneur. On lui demandait, mais pour les Argentins entre Messi et Maradona, lesquels? Et il disait, mais en fait, c'est que c'est même pas comparable, parce que Messi, effectivement, il adore, c'est vraiment un joueur incroyable. Mais Maradona, pour eux, il m'a résumé avec un mot, il m'a dit nuestro. Ça veut dire notre. C'est un joueur qui, pour eux, représente vraiment ce que c'est l'Argentine avec ses défauts. Faux et c'est ça tout. C'est peut-être quelque chose qui est difficile parfois à entendre pour un Vénézuélien. Je suis vénézuélienne, on a vu Maradona parfois venir serrer la main d'un Chavez, d'un Maduro, dans des époques où Maduro, on savait déjà ce qui s'est passé au Venezuela.
On parlait football, on parlait de la main de Dieu.
Oui, effectivement, mais c'est qu'en fait, avec Maradona, tout est tellement lié.
C'est vrai.
C'est tellement difficile de dissocier du personnage.
Non, et puis cette main de Dieu, puisqu'on parlait de ça, je pense que fondamentalement, c'est pas un geste de tricherie. C'est de l'instinct, il met la main comme ça. Après, ça a pris toute cette... Non, mais je veux dire par là, je pense pas que sciemment il dit je vais mettre la main, c'est, comme ça c'est un réflexe, il met la main, voilà, c'est la grâce néfaste, mais c'est
Chilton
la grâce.
Chilton lui en veut encore. Hein.
Oui, mais après ça prend cette dimension parce qu'on sait très bien que c'était l'Angleterre, les Malouines, voilà.
Il y avait... Alors pour rappeler le contexte, effectivement, le contexte, il y avait la guerre des Malouines voilà. 4 ans plus tôt avec de nombreux morts argentins et que.
Et je pense qu'il aurait pas revendiqué ce geste aussi fortement.
Il aurait fait un bras d'honneur, c'était pareil.
Non, mais c'est ce qu'il a dit.
Il a pas eu des mots très tendres pour Maradona. Dans la presse anglaise, Peter Shilton, le gardien de l'époque anglais. Donc voilà, après.
Non, mais vous êtes gentil. Non, mais c'est si Maradona avait marqué de la main contre l'équipe de France de football.
Non, mais il y a Schumacher qui
alors, je veux bien qu'on en sente, je veux bien qu'on transcende ce geste, qu'on en fasse une chanson, des chansons. Je veux bien qu'on en fasse des bouquins, des histoires, des légendes. Mais si c'était contre l'équipe de France de football.
C'est un idéal. La justice dans le football et dans la vie même, mais dans le football, c'est un idéal. Je comprends ce que dit Christian Gourcuff. Mais Harald Schumacher, il a détruit Batiston. Thierry Henry, il a contrôler le ballon de la main pour faire une passe à William Gallas après et que la France se qualifie.
Il a été cassé, tué Thierry Henry.
Mais justement, là, c'est
très Christian, vous êtes pro contre les VAR.
Ça fait partie du foot, le vice, la tricherie.
Ah bah s'il y avait eu la vidéo cette fois-ci.
Ah mais voilà, mais ça c'est l'argument.
Non, ça marche pas. Ça fait partie du foot, le vice, la tricherie font partie du foot comme dans la vie.
Toi tu considères ça.
Non, c'est un principe d'objectif.
Tu l'as accepté, mais ça n'a pas été accepté au moment de la main d'Henry. Il l'a traîné toute sa fin de carrière, Thierry Henry. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu
parce qu'il a pas assumé comme Maradona peut-être
vindicatif et dire mais ça fait partie du foot, je l'ai fait, c'est un réflexe pas vu pas pris, l'arbitre nous a... Et sur le moment ça aurait été peut-être plus scandaleux, mais je pense que sur le long terme, il aurait moins pâti de cette espèce de zone grise dans laquelle tout le monde s'est mis. Maradona, il l'a assumé, il l'a revendiqué.
Il aurait fait une crème de Ménèque aussi. Oui, mais c'est pas pareil, parce que la main de Henry, finalement, elle débouche sur rien. On est qualifié, mais on fait une Coupe du Monde pourrie derrière.
Ah, ça, on pouvait pas le savoir au moment où il a fait la main.
Mais s'il avait fait la même main pour nous qualifier, bon, en 98, on était qualifié, mais pour nous qualifier à une Coupe du Monde qu'on remporte, derrière, la main de Thierry Henry.
Et on rappelle que c'est pas une main qui marque un but, d'ailleurs.
Non, c'est une passe à Galas. La main de Maradona, elle arrive. Alors qu'il a son paroxysme, elle fait gagner une Coupe du Monde, donc elle a toute cette symbolique. La main de Thierry Henry, elle nous emmène nulle part, donc forcément, on peut pas la juger.
Elle nous emmène dans le mur, si.
Oui, non, mais on aurait gagné une Coupe du Monde derrière cette main, je peux dire que Thierry Henry sera un dieu.
Enfin, moi, je persiste dans l'argument qui consiste à dire que si ça avait été l'équipe de France, on en entendrait encore parler pendant des années.
Non, mais parce qu'il
un jour, Schumacher va mourir, et puis vous verrez qu'en France, la première réaction qu'on aura, c'est d'appeler Patrick Batiston, et c'est de rappeler qu'il a pas été expulsé, qu'il a frappé Batiston de manière scandaleuse lors d'une demi-finale de Coupe du Monde. Le reste de la carrière de Harald Schumacher, elle passera complètement à l'as.
Je tiens quand même à rappeler qu'il n'a seulement pas assumé à l'époque les gestes, mais dans l'interview qu'il a donnée à France Football, donc c'est les dernières interviews qu'il a accordées avant de décéder.
Il est prêt à la refaire.
Il a dit il est prêt à la refaire, il aurait aimé avec l'autre.
Alors quand même, si tu fasses quand même un peu sombre, tu dis autre chose, faut être sérieux.
Non,
là.
Mais Christian,
non, c'est excellent.
La provocation.
Là, Christian, vous parlez.
Mais c'est une punchline, c'est excellent.
Mais non, mais vous parlez comme un provar. Je suis désolée. Parce que ça, ce que vous dites là, c'est l'argument des provar. Il aurait dû avoir un provar.
Essayez de traduire quelque chose.
Ah, c'est du vénézuélien.
Non, mais vous êtes pour la VAR.
Non, pas du tout.
Vous n'aimez pas la tricherie avec une vidéo, il n'y aurait pas eu ça, si vous savez, c'est vraiment.
C'est les commentaires qu'on en a fait derrière. Non. Que les choses soient claires. Effectivement, le foot est fait de tricherie, de malice, de vice. On est bien d'accord. Mais qu'on en fasse tout derrière, un business de films, de bouquins, qu'on en fasse une légende et un dieu, la main de Dieu, Non.
Mais c'est pas juste pour ça, c'est aussi parce qu'il y a eu l'autre but aussi qui a été une merveille.
C'est lui, on alimente c'est là tout. Aussi, oui, Dominique, quand même.
Non, mais ça rappelle aussi un football. Alors, pour le coup, Philippe, tout à l'heure, parlait d'un football d'époque, c'est avec un arbitre tunisien et un juge de touche bulgare, déjà des trios arbitrales complètement improbables qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Et l'arbitre tunisien s'est exprimé cette semaine et il a dit, bah, moi, je l'avais vu, la main, mais le juge assistant bulgare, lui, l'avait pas vu. Mmh. Alors, comme la loi, c'était.
Ouais. Enfin, Thierry Roland et Jean-Michel Larquier l'avaient eu de la tribune.
Oui, la loi, c'était celui qui est le plus proche de l'action et l'emporte sur l'autre. Donc, comme le juge était plus proche que l'arbitre central, c'est lui. Il dit, mais moi, le but tunisien dit, mais moi, après, j'ai reçu Maradona, il m'avait félicité, il m'avait dit, t'avais très bien fait.
Il avait offert un maillot.
Il y avait une sorte de pacte de corruption, quoi.
On a vérifié les comptes en banque et du trio arbitral après ou pas.
C'est pas clair.
Oula, c'est pas clair.
Non, mais Christian, pour revenir aux excès de Maradona, Maradona, sur la fin de sa vie, meurt jeune finalement, c'était Gérard Depardieu. C'est-à-dire que ça partait dans tous les sens. Il allait voir les chefs d'État qu'il fallait pas voir. Il faisait des sorties n'importe comment. On le voyait arriver quand il entraînait Gymnasia sur une sorte de trône sur le terrain. C'était devenu une sorte d'Elvis Presley bouffi. Voilà, et c'est
ce qui est arrivé à Elvis Presley aussi.
Et en parallèle, il s'est réconcilié avec sa famille, il a reconnu ses filles. Donc on peut dire aussi que je pense que vers la fin, il s'est plus laissé aller dans ses délires. Et de toute façon, son côté anti-américain, il a tenu jusqu'au bout. Mais il s'est aussi rapproché
quand même
de sa famille.
Cindy, hein.
Comment ?
Il y a une tension sur l'hôpital. Il a été hospitalisé pour un problème au cerveau.
Effectivement.
Et il est peut-être sorti trop tôt. Lui a voulu sortir. Sa famille n'était pas forcément d'accord pour qu'il sorte.
Et c'était la guerre aussi avec son médecin.
On va faire jouer les assurances. Là,
non, mais son médecin,
il était resté un peu plus longtemps à l'hôpital.
C'est pas le sujet.
C'est pas le sujet.
Quand il a quitté Barcelone, une saison où il a été blessé, puis une saison mi-figue, mi-raisin, finalement, ça n'a pas été extraordinaire sur le plan sportif.
Il s'est fait découper. Incroyable.
On est d'accord. Il est revenu d'ailleurs, il devait être indisponible pendant une durée de 6 mois, il est revenu 3 mois et demi derrière. Une image, ensuite, il a voulu régler ses comptes parce qu'il a retrouvé l'Athletic Bilbao. Il a voulu. Enfin, il s'est battu.
Ça s'est fini en bagarre.
Les images sont sur YouTube pour les plus jeunes.
Dans le film aussi, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, consacré à l'époque napolitaine de Maradona, qui dure 2h10, qui est un documentaire extraordinaire.
C'est une passe décisive, Dominique Sévrac, parce que je vous le conseille vraiment. Ce film de plus de 2 heures, effectivement, est à voir et à revoir. Il est signé de Asif Kapadia. Il s'intitule Diego Maradona, date de sortie 2019. Je vous propose un extrait. Son arrivée à Naples, Diego Maradona.
Je joue à Napoli. Después de la mala experiencia en Barcelona, un desastre. Fue 2 campeonatos y creo los pude jugar, una por la enfermedad y otra vez por la quebradura del tobillo, que me quedé sin plata. Yo no conocía Nápoles, no conocía Italia, pero no había ningún equipo que me compre. Yo le pedí una casa, me dieron un departamento. Le pedí una Ferrari, me dieron un Fiat. Et là, tout par abajo.
Alors, la traduction, grâce à Quentin Vasselin, je parle sous le contrôle de Cindy Colmenares. Je suis arrivé à Naples après une expérience décevante à Barcelone. Un vrai désastre. Je n'avais pas fini la première saison à cause d'une maladie et la deuxième à cause de ma cheville cassée. Je n'avais plus d'argent. Je ne connais pas Naples ni l'Italie, mais aucune équipe ne voulait de moi. Je leur ai demandé une maison. J'ai eu un appartement. Je leur ai demandé une Ferrari. J'ai eu une Fiat. Je me suis senti déclassé.
Et non, il y a un transfert surtout. C'était à l'époque un récolte avec 12 millions. Enfin, c'était quand même énorme. Et un public qui les reçoit au Stade San Paolo avec à peu près 60 000 ou 70 000 personnes, vous me corrigez. C'était quand même un poids énorme pour ces joueurs-là. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un mythe, c'est un idole, parce que qui aurait pu supporter ces poids-là ? C'est facile de juger à distance, mais voilà, c'est toute une nation.
Et sa famille était absolument vent debout quand il est arrivé à Naples, quoi, parce que l'idée c'était, tu as quitté l'Argentine pour aller en Europe, t'es à peine allé à Barcelone que tu te retrouves dans cette ville crasseuse de Naples où il y a
enfin crasseuse pour les Italiens du Nord surtout.
Hein. Oui, non mais ça aussi.
C'était l'Italie du Sud.
Une ville pauvre, fin de citation.
Non. Ouais. C'était un retour finalement à la case départ.
Pauvre et populaire quoi. Voilà.
D'ailleurs, ils se faisaient insulter sur les terrains quand Naples se déplaçait dans les villes du Nord.
Alors Naples,
on leur disait les joueurs que c'était des métèques.
Lavez-vous, allez vous laver.
Naples n'avait rien gagné avant. Naples n'a rien gagné depuis et pendant le règne de Diego Maradona, 2 titres de champion et une coupe de l'UEFA.
De l'UEFA.
Ouais. Comme en Argentina Junior, comme avec l'équipe d'Argentine. En fait, par tous les clubs où il est passé, et tu le disais à juste titre, Philippe, tout à l'heure, il a réussi à tout seul faire éblouir ses clubs.
Vous avez compris que j'aime bien beaucoup Maradona, donc je l'ai vu au cinéma, ce film. Et
extraordinaire.
Au cinéma, les 5 Comartins à Paris, et la salle était pleine.
Extraordinaire.
Donc, je pense qu'il y a une fascination de Maradona C'était il y a un an et demi. En France, voilà, elle est mondiale.
Je vous propose un autre extrait vraiment de ce documentaire, hein, deux heures de ce film, hein, 2h10, à retrouver également sur MyCanal.
Je crois qu'il passe en ce moment.
MyCanal, ouais, absolument, hein, de Asif Kapadia, Diego Maradona 2019, vraiment, sur justement les Maradona et les dérives nocturnes. Écoutez.
Todavía se quedaba con las nenas.
Llegaron ya.
Yo salía a tomar algo con mis amigos. Ahí tomábamos cocaína. Hasta el miércoles. Y de ahí empezaba a limpiar para jugar el domingo. Y yo, con la droga, entraba a mi casa y cuando la veía a mis hijas, tenía miedo. Así que me cerraba el baño. Yo íntimamente sabía que tenía un hijo en Nápoles, pero en ese momento no me hacían nada, no me importaba.
Voilà ce que dit Diego Maradona. Claudia, son épouse, s'occupait des filles, des enfants, et moi je sortais boire, on prenait de la cocaïne, c'était comme ça, jusqu'au mercredi. Ensuite j'éliminais tout avant le match du dimanche. Quand je rentrais chez moi défoncé et que je voyais mes filles, ça me faisait peur. Je m'enfermais dans ma salle de bain, je savais au fond de moi que j'avais un fils à Naples, mais à l'époque je m'en fichais, ça m'était égal.
C'est ça.
C'est fascinant, c'est ça qui est fascinant.
Ça aurait été impossible en ces moments en Argentine, surtout que les Argentines mènent une lutte très forte, féministe. D'ailleurs,
il a été un peu soupçonné d'ailleurs d'avoir un peu été pas forcément toujours très, très, très sage avec,
ouais, avec les femmes.
Entre l'alcool, les femmes, la drogue, c'est vrai qu'il a fait quand même le grand chelem.
C'est intéressant d'entendre les féministes en ces moments en Argentine
d'un
autour
qui
de.
Ça ne s'appartenait plus. Ouais. Et donc, dans ces excès-là, forcément.
Bah, je pense que c'était plutôt un enfant qui n'était pas conscient de tout ça. Je pense qu'en fait, il ne se rendait pas forcément compte de tout ça. Je pense qu'il s'est jamais vraiment totalement rendu compte toute sa vie de qui il était. Lui, il était Diego, les autres le voyaient comme Maradona, et je pense que c'est ce décalage aussi qui fait qu'il a eu cette
trop
vie absolument...
Trop d'argent d'un coup qui tombe sur lui.
Ouais, et puis en fait, il s'est plus appartenu du moment où il a joué au football, du moment où il a intégré le football professionnel, il s'est plus appartenu. Et en fait, il y avait Diego et Maradona. Lui était Diego, les autres voyaient Maradona.
Tous les personnages extrêmes, finalement, d'après-guerre, et on parlait de certains artistes, sont concentrés un peu dans Maradona, et on le voit dans ce film, son arrivée à Naples. Moi, ça m'a rappelé des moments de Rocky du film. En fait, quand il commence à avoir la gloire qui arrive d'un seul coup, l'argent qui arrive d'un seul coup, il se met à faire des publicités pour n'importe quoi. Il sait plus à qui il sert la main. À chaque fois qu'il rencontre des gens, on lui offre, ah bah tiens, ils m'ont offert une montre aujourd'hui. Et, donc il a une Rolex par semaine.
Il se rend
pas compte qu'en fait, c'est tout simplement la mafia qui est en train de lui mettre la main dessus. Tout va trop vite. Il est emporté. Et les lessivés, en fait.
Et le début de la fin, Philippe Sansfourche, messieurs et mesdames, c'était 86, quand la demi-finale de Coupe du Monde est jouée contre l'Italie à Naples. Là, Diego Maradona espère que les supporters seront derrière l'Argentine. C'est un vœu pieux, évidemment. Mais au moment de l'hymne, il a été insulté. L'hymne argentine a été insulté. Surtout, Diego Maradona et les Argentins ont éliminé cette équipe d'Italie. Et ça a été le début complètement de la fin pour Diego Maradona, car ensuite, il a été mis sur écoute. On lui a prouvé qu'il consommait sans cesse de la cocaïne, qu'il était infidèle, qu'il allait voir des prostituées. Et c'est à devenir fou, en vérité.
Ouais,
c'est à
30 ans fou. Plus tard, il y avait un match de Naples jeudi en Ligue Europa. Et ils ont craqué des fumigènes. Il y avait une sorte de chapelle improvisée autour de San Paolo pour lui rendre hommage. Je pense quand même que j'ai entendu un Napolitain dire que Maradona était un Napolitain qui était né en Argentine par hasard. Donc voilà, il y a quand même une fusion entre Naples et Maradona qui reste 30 ans plus tard.
Oui, c'était une forme de Spartacus quelque part. Il a donné de la fierté à cette ville parce que c'est avec lui que le club a finalement gagné. Et comme tous les clubs où il est passé, et dans tous les clubs où il est passé, il a laissé une trace. Et quand je dis une trace, c'est une trace picturale. Vous allez encore aujourd'hui à Naples, j'y suis allé, il y a des fresques de Maradona. Vous allez à la Bombonera, Buenos Aires, où je suis allé également, il y a des fresques de Maradona. Il a laissé une trace très très forte partout où il est passé.
Se sont enchaînés donc des problèmes de santé. Il a fait 2 crises cardiaques avant la fatale. Il a été opéré de l'estomac, opéré du cerveau. Il a tenté de relancer un peu, non pas sa carrière de joueur bien sûr, mais sa carrière d'entraîneur. Mais ça n'a pas été extraordinaire. Puis en 2004, il a connu de vrais problèmes de santé. À devenir fou, c'est ce que je disais, car il est entré dans un hôpital psychiatrique. Écoutez.
Non, non, on peut converser. On doit être à disposition. La veo a mi hija y yo, pero bueno, tampoco es para ponerse así, pero estoy perdiendo por los cabos. Yo comprendí tarde que ellos me querían ver bien y no podría hacer más de lo que hacen.
Voilà, témoignage poignant, terrible, ampleur, Diego Maradona, toujours sorti de ce même documentaire, de ce film vraiment que je vous recommande et qui est toujours visible sur sur les tablettes, sur le numérique, My Canal notamment, 2h10 hein, de Azik Kapiada. C'est vraiment un film poignant, formidable, vu par le prisme de son parcours à Naples. Et voilà ce que dit donc Diego Maradona, c'est une clinique psychiatrique, on ne peut pas discuter, il y a des règles à respecter, je vois ma fille et je pleure, ce n'est pas si terrible que cela, mais je veux quand même m'en sortir, c'est un nouveau combat, je risque de perdre par chaos. Peut-être que j'ai compris un peu tard que mes proches voulaient me voir guérir, ils ne pouvaient rien faire de plus que ce qu'ils ont fait.
C'est ça, c'est un peu la déchéance à la fin. Donc c'est quand même assez difficile d'entendre un personnage qui a donné tant de bonheur. Je pense qu'en distribuant autant de bonheur, peut-être qu'il y a des petites parties de bonheur un peu éparpillées partout et qui reste chez lui aussi. Pour lui, il vivait un peu pour ses filles vers la fin de sa vie. Donc, c'est ça aussi qui lui a donné peut-être cette force qui fait qu'il a pu tenir encore quelques années au-delà de ce qu'on attendait qu'il puisse encore supporter tout ce qui s'est passé.
Diego est mort, mais Maradona est éternel.
Quand on aime le foot, quand on vit dans cette passion comme on le fait au quotidien, il y a l'amour du jeu et puis il y a l'amour du stade. D'ailleurs, qui nous manque tellement en ce moment parce qu'on va au stade, mais c'est pas un stade, c'est bon. Et Diego Maradona, c'est le personnage qui a le plus fait vivre les stades. Et quand on parlait de quand on va à Naples ou quand on va à Buenos Aires, ce qui existe encore dans ces villes, dans certains quartiers, on a le sentiment qu'il a arrêté de jouer il y a pas 15 ans, 20 ans. On a l'impression que ça fait 6 mois. C'est-à-dire qu'il vit encore. Et c'est parce que c'est lui qui a transmis le plus de passion dans un stade.
Le génie est éternel, le génie est rare et on a la chance de l'avoir tutoyé.
Merci madame, merci messieurs pour cette spéciale Maradona. Il nous reste encore une petite demi-heure. On va parler de Marseille qui a gagné 3-1 contre Nantes cet après-midi. On va parler également d'un sondage qui concerne la popularité du Paris Saint-Germain et accessoirement celle de Thomas Tuchel. Émission 100% interactive, les messages à propos de Diego Maradona, Baptiste Durieux.
Et justement par rapport à cette main de Dieu et ce match contre l'Angleterre, message de Johan, la main de Dieu est tout aussi belle que la VAR est détestable. C'est le football dans ce qu'il a de plus beau et de plus injuste, mais qui renforce simplement les émotions que nous procure le plus beau sport du monde. Et puis, message de Flavien, a-t-on pardonné Zidane pour son coup de tête? La réponse est oui. A-t-on pardonné Maradona pour sa main? La réponse est oui encore. Les génies sont toujours pardonnés et d'autant plus adulés parfois. Et puis, sans transition, comme tout à l'heure, la Ligue 2, 3 qui mène 1-0 face à Amiens, 0-0 entre Rodez et Guingamp, entre Ajaccio et Chambly, Sochaux qui mène 3-0 face au Havre, 1 partout entre Dunkerque et Pau, 0-0 entre Caen et Châteauroux, entre Clermont et Nancy, et puis Valenciennes qui mène 1-0 sur la pelouse d'Auxerre. On le rappelle, Toulouse s'est imposé 2-1 tout à l'heure face à Niort, et le match nul et vierge entre Grenoble et le Paris FC, 0-0.
A tout de suite pour parler du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et du reste de l'actualité football.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match, la dernière demi-heure en compagnie de Cindy Colmenares, Florian Gazan, Dominique Sévrac, Philippe Sansfourche. À 20h, vous retrouverez bien sûr RTL Foot jusqu'à 23h avec l'intégralité notamment de Paris Saint-Germain-Bordeaux. Du Paris Saint-Germain, on en parlera dans un instant. Avant 20h, on rendra un hommage également à Christophe Dominici qui venait très très souvent participer, intervenir d'ailleurs dans le multiplex foot ou dans le On fait le match à l'époque présenté par Pascal Pro. Il y avait des matchs de rugby au commentaire Jean-Michel Rascol et nos discussions avec Christophe étaient parfois agitées sur plein de choses, sur les pelouses rendues pas possibles par les rugbymen, la vidéo interminable, etc. etc. Nous rendrons donc hommage à Christophe dans un petit quart d'heure. L'actualité foot avant de parler du Paris Saint-Germain, c'est le débrief. Tout à l'heure on l'a vu avec Hugo Hamelin, mais est-ce qu'il faut rajouter quelque chose sur la victoire de Marseille face à une palichonne équipe de Nantes tout de même, hein. C'est un succès important qui replace les Marseillais dans les premières positions du classement, troisième de mémoire.
Oui, avec deux matchs de retard.
Ça en dit plus long sur la faiblesse de l'adversaire et de la Ligue 1 globalement que sur la force de l'OM et sa capacité de rebond.
Thauvin, Payet, Benedetto.
Quand on voit les prestations de l'OM en Ligue des Champions, et qu'on voit à quel point cette équipe est loin, loin, très très loin du compte, l'avoir aujourd'hui troisième du championnat avec deux matchs de retard, c'est une énième confirmation du déclassement de la Ligue 1. Quoi.
C'est très embêtant qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, parce qu'ils ne la joueront pas. Donc,
la Ligue Europe
Non, mais si, là, s'ils sont troisième, pour l'instant, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, si le championnat s'arrêtait maintenant. Oui. Si par exemple, il y avait une... On voit que quand ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, ils ne la jouent pas. Ils ne recrutent pas, il faut vendre pour 60 millions, ils ne vendent pas.
Mais même la Ligue Europe, visiblement, Villas-Boas n'a pas très envie de la jouer, finalement, puisqu'il considère que son équipe n'a pas le standing de jouer également la Ligue Europe.
Non, mais ça c'est quand même scandaleux. De déclarer ça. Quand tu entraînes l'OM, qui est donc le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions, tu peux pas dire ça. Quand tu entraînes l'OM, qui est en finale de la Ligue Europa il y a pas si longtemps, tu peux pas dire que la Ligue Europa ça t'intéresse pas. Comment est-ce qu'il peut dire un truc pareil?
Alors faut peut-être replacer la phrase dans son contexte. C'est-à-dire, est-ce que cette équipe a le standing? C'est un message envoyé d'ailleurs au propriétaire. Est-ce que l'Olympique de Marseille a le standing de disputer la Ligue Europa? Si c'est pas pour autant qu'il démotive ses joueurs,
si ça lui va pas, il va entraîner un autre club. C'est quand même incroyable
de se prendre des tôles. Il est ridicule chaque semaine.
Il s'en va. C'est quoi cet entraîneur? Moi, je comprends pas. Villas-Boas, l'année dernière, il était exceptionnel. Il était vraiment très fin. Et puis, alors, depuis le début de l'année, on dirait un mec qui fait un 110 mètres et qui se tape toutes les. La démago, la parade. Il est resté.
Il voulait pas rester.
Il est resté.
Ouais, enfin, chez Florian Gazan, vous avez presque le même à la maison, hein, au Parc des Princes. Au PSG, c'est un peu la même chose.
Je dis pas le contraire, mais moi, je trouve qu'à un moment donné, ces gars-là, franchement, ça va. Ils sont pas non plus à la rue. S'il est pas content, il part.
Je partage l'avis de Florian Gasson et puis je pense que c'est vrai, on a vu un vrai changement de Villas-Boas. Moi, je me souviens, bon, c'est quand même celui qui les amène en Ligue Europa. Enfin, c'est quand même dingue de les avoir amenés aussi loin en Ligue des Champions, pardon, pour après livrer cette prestation-là. Après, bon, il y a eu aussi, Valerdi, vous avez vu ce qu'il a fait. On dirait qu'il jouait pour l'adversaire. Amavi n'était pas excellent non plus. Il y a quelques personnalités qui laissent à désirer. Là, moi, voir un Benedetto, un Thauvin, un Payet briller contre Nantes, c'est ce que j'attends un peu en Champions League.
Enfin, ça en dit long quand même sur la qualité du championnat.
Des qualités, oui, non, et sur
Marseille,
la qualité de l'adversaire, comme disait Philippe.
Et à deux matchs en retard. Je rappelle les buteurs, Thauvin, Payet, Benedetto
son
et place
but.
Pour le FC Nantes. Son premier but, sous les couleurs de...
Non, de la saison.
Oui, de la saison.
Benedetto, premier but de la saison.
Oui, mais enfin, bon...
Bah c'est pas mal, c'est peut-être un déclic. J'essaie de positiver.
Au bout de la 12e journée,
il y a deux équipes qui sont inquiétantes également. Elles ont joué hier soir. C'est Strasbourg-Rennes, un but partout. Ça va de plus en plus mal pour Strasbourg et l'avenir de Thierry Laurel, entraîneur, est en pointillé.
L'année de trop, peut-être.
Et Rennes n'y arrive plus, n'y arrive pas.
Mais Rennes, ils ont bizarrement perdu le fil il y a quelques temps déjà. Je ne sais pas. À partir du moment où tout le monde les a vus beaux, à partir du moment où Kamavinga et Nzonzi sont allés en équipe de France, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, ils se sont mis à tout perdre.
Alors là, parce qu'on les a vus comme des gagnants au début de saison. Enfin, je me souviens, on était là, on disait, waouh, ce sont ceux. Non, mais on disait, ce sont ceux peut-être qui vont prendre la tête, ils vont peut-être finir deuxième derrière les PSG. On les voyait vraiment très beaux et c'est vrai qu'on ne comprend pas ces déclins actuels, mais je pense que c'est une mauvaise. Comme une mauvaise chose qui s'arrive avec entre Rennes, l'OM, tous les clubs français, ça se déteint les uns sur les autres, en fait. Même les PSG n'est pas brillant.
La période qu'on vit et le bouleversement des calendriers, les cadences infernales, c'était pas la meilleure année pour découvrir cette compétition. On va dire qu'on sait qu'à chaque fois qu'un club découvre la Ligue des Champions, il y a une phase d'apprentissage qui est souvent assez douloureuse. Et je pense que le fait que ce soit greffé là-dessus, le manque de préparation, l'enchaînement des matchs tous les trois jours, et donc pour Julien Stéphan, le devoir emmener un groupe qui découvre ce niveau-là,
il
cumule absolument tous les handicaps, et là il le paye au prix cher.
Au passage, excellent entraîneur.
On aurait pu vous parler de Lyon également, Oussama Aouar. Alors là, visiblement, il y a quand même une entente qui se fissure entre la direction ou direction de l'Olympique Lyonnais, même si elle n'est pas affichée publiquement. Juninho, Las qui valide une sanction,
Garcia
qui...
pas trop d'accord, mais bon, finalement.
Besoin de donner une réponse et une seule en conférence de presse. Pas trop d'accord, mais il fait comme s'il était d'accord.
Institution.
Affaire à suivre.
Dans 7 mois, il est plus là, Garcia.
Et puis on verra si Patrick Vieira survivra à l'élimination de Nice en
Ligue 1. Un groupe redoutable.
Mais on va parler du Paris Saint-Germain, car nous avons un baromètre Odoxa RTL Winamax, avec notamment Émile Leclerc, directeur d'études pour Odoxa. Bonsoir Émile.
Bonsoir.
On voulait sonder les Français. Vous avez sondé les Français après une victoire, petite victoire quantitative et qualitative du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette semaine. La première question qui était posée aux Français, aux amateurs de foot, Émile Leclerc, les Français doutent-ils de la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ?
Ben ouais, on va revenir rapidement en arrière. Juste avant ce match face à Leipzig, rappelez-vous, les Parisiens devaient absolument gagner, sans quoi ils étaient quasiment éliminés. Et juste avant ce match, on avait interrogé les Français, les amateurs de football. Ils étaient 54% et 71% à nous dire que le PSG allait se qualifier. Et après ce match, malgré la victoire, donc il y a un résultat quand même positif d'un point de vue comptable, eh bien ça baisse. Les Français sont 50% à nous dire que le PSG va se qualifier et les amateurs de football 68%, alors même que les chances mathématiques du club se sont améliorées. Et pourquoi ce résultat et pourquoi cette baisse, finalement ce pessimisme qui est en train de monter pour le PSG, eh bien c'est le niveau qui a été affiché par l'équipe ce jour-là, qui est pointé par les amateurs de football. 58% des amateurs de football nous disent que c'est inquiétant pour la suite de la saison. Ils voient mal comment l'équipe retrouve à son niveau. On pourrait penser que le retour des blessés et de la condition physique améliorera les choses, mais il n'y a que 40% des amateurs de football qui le pensent. Donc oui, effectivement, un résultat positif, mais pas du tout rassurant pour les amateurs de football et les Français.
Une forme de sinistrose qui s'installe.
Non mais le PSG est un club extraordinaire. Parce que c'est quand même... On connaissait le concept de la défaite encourageante. Maintenant, on a la victoire inquiétante. C'est le PSG qui invente la victoire inquiétante. Mais c'est vrai que cette rencontre... Enfin, je sais pas, Dominique, de mémoire, est-ce que tu as le souvenir, non, toi, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, d'un match aussi pauvre, d'une qualité technique proche du néant? Je suis ressorti du Parc des Princes, j'étais atterré.
Alors,
parce que j'ai vu.
Faut rester sous l'air qatari, c'est ce que vous voulez dire.
Oh, mais même avant.
Sous l'air qatari, c'est le pire.
Ça, c'est sûr.
Sous l'air qatari, c'est sûr. Ça fait quand même 9 ans qu'ils sont là, que le Qatar est là, et ça fait. Ils sont revenus en Coupe d'Europe l'année 2012-2013.
Ouais.
Donc en Ligue des Champions, ça fait au moins 8 ans que j'ai pas vu un match aussi mauvais, aussi pourri, hein, soyons, allons-y, d'une faiblesse, d'une indigne, scandaleux même on peut dire, comme ça. Alors après, Florian, tu peux peut-être nous annoncer qu'ils, même dans l'histoire du PSG, peut-être dans 50 ans, il n'y a pas pire, mais...
Bah, franchement... Même dans les années où ils étaient très très mauvais, il y avait quand même un investissement. Ils faisaient avec les moyens du bord. Là, ils ont fait avec rien du tout. En fait, ils ont juste joué avec la peur au ventre et le reste. Et c'était en gros, on se met derrière, deux devant, sept derrière, on marque un but miraculeux, puis après on serre les fesses. Moi, j'avais l'impression de voir un club de Ligue 1 qui venait jouer au Parc des Princes, sauf que là, c'était le PSG en fait.
Oui, ils ont joué en contre à domicile. Il n'y a pas pénalty, hein, c'est un pénalty.
Après, c'est peut-être une forme de génie, hein, ce renoncement, hein, parce que alors, vu la situation du club, alors, est-ce que c'était pas la seule et unique manière de pour arriver à ce
justement
résultat.
Est-ce que Thomas Tuchel est un génie? Est-ce qu'il n'est pas le principal responsable de cette situation? C'est la question que vous avez également posée aux Français, aux amateurs de foot, Émile Leclerc.
Je vais peut-être vous surprendre, mais un chiffre qui est intéressant quand même, quand on demande aux amateurs de football si le PSG doit remplacer Thomas Tuchel, eh bien 55% d'entre eux nous disent non. Alors même qu'on parle beaucoup de son départ, de sa fragilité sur le banc du PSG, ils sont même 52% à nous dire encore que Thomas Tuchel est l'entraîneur qu'il faut au PSG pour remporter la Ligue des Champions. C'est paradoxal, hein, parce que les amateurs de foot ont bien vu le niveau du PSG lors de ce match, mais ça s'explique en fait. Ils ont le sentiment que Thomas Tuchel n'est pas le principal responsable du niveau de jeu du PSG depuis le début de la saison. 59% nous le disent. Et alors, on n'a pas la question, mais on a déjà vu régulièrement dans des sondages, quand c'est pas l'entraîneur qui est responsable aux yeux des amateurs de football, c'est souvent les joueurs. Et il est probable qu'ils pointent la responsabilité à l'égard des joueurs cette fois.
Et entre l'entraîneur et les joueurs, il y a aussi un manager, Philippe Sanfourche. On attendait beaucoup de Leonardo. On a le sentiment qu'il a du mal à se positionner finalement et à prendre les choses en main, ou par rapport à Tuchel, ou par rapport à les joueurs.
Il joue aussi la montre, Leonardo. C'est-à-dire
quelle montre?
Au niveau du recrutement, vous aurez remarqué quand même que l'été dernier, c'était pas Neymar et Mbappé. C'est une période qui est compliquée, qu'il était déjà, qui était un peu charnière sur le plan des investissements, du fair play financier. Depuis des années, il fallait un tout petit peu faire le dos rond. On l'a déjà dit, on arrive à la fin de l'amortissement des transferts de Neymar et Mbappé. Il y a aussi le poids de l'investissement dans le centre d'entraînement qui coûte beaucoup d'argent. Tout ça...
300 millions.
Voilà, Leonardo, il le dit aux joueurs, il le dit à Neymar et Mbappé quand il est dans le processus de prolongation de contrat. Il le dit à tous les partenaires.
il faut encore attendre un an ou deux. Et derrière, ça va être, ça va encore être la foire à la saucisse. Mais pour l'instant, ça l'est pas.
C'est loin de là. Colmenares.
Pour moi, c'est totalement la responsabilité de Thomas Tuchel. Bien que, effectivement, lors du match, on n'a pas vu, par exemple, un Neymar brillant. Techniquement, c'était pas ça. On est habitué à son joga bonito. On l'a pas vu. Quand on a vu l'entrée de Verratti, on a vu une métamorphose aussi de l'équipe. Donc, on peut considérer qu'il y a des absences. Mais je n'aime pas, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un entraîneur qui est constamment en train d'essayer de justifier lui et ses joueurs. Moi, je considère que les joueurs ne le respectent pas forcément, parce qu'un joueur qui respecte un entraîneur ne se permet pas une pareille performance en Champions League.
Moi, ce qui me dérange avec Thomas Tuchel, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à entraîner l'équipe. Entraîner au sens de la motiver, de lui donner de l'énergie. Moi, quand je vois à la fin du match que j'ai Neymar et Mbappé qui sont sur le banc en train d'encourager leurs potes et que c'est là qu'ils font leur meilleur match du match, leur meilleur moment, je me dis, c'est pas normal que quand ils sont sur le terrain, ils n'arrivent pas à les faire plus jouer.
Moi, je veux pas être l'avocat de Thomas Tuchel, mais c'est un fait. C'est-à-dire que toutes les données médicales aujourd'hui sont dans le rouge. Les joueurs sont tous dans le rouge. Et regardez les autres clubs à l'étranger, les clubs de la dimension du Paris Saint-Germain. Il y en a combien qui s'en sortent réellement en ce moment? Le Bayern est en difficulté. Manchester City est en difficulté. Oui, Liverpool a encore perdu.
Oui, mais ils sont qualifiés en Ligue des Champions quasiment tous, Philippe. City, bah oui, mais quand même, il y a donc moi je veux bien que l'argument physique, on sent que les joueurs sont cramés et c'est ça qui est inquiétant et je pense qu'à Manchester ça va être compliqué.
C'est un sport collectif, donc c'est toujours compliqué de désigner quelqu'un plus qu'un autre, mais Thomas Tuchel, il a une part de responsabilité. Déjà sa communication est en train de partir un petit peu en live, il devient un peu fou, il s'en prend à tout le monde de manière, il voit des ennemis partout, faut qu'il se calme, c'est lui qui fait l'équipe. Moi tout ce que je lui reproche, c'est qu'il y a pas de plan de jeu au bout de 2 ans et demi. En fait, faut donner le ballon à Neymar et Mbappé puis après on verra.
Et des joueurs pas à leur place.
Et après on verra. Et puis alors si Danilo Pereira peut jouer en défense, Marquinhos au milieu et Navas attaquant, ça il adore.
Moi je pense que tant qu'on fera une équipe autour de Neymar, je suis pas certaine que le PSG gagnera quelque chose.
Et rapidement Émile Leclerc, la popularité du Paris Saint-Germain s'en ressent-elle finalement?
Ben, elle reste faible hein, parce que le PSG avait progressé entre 2016 et 2019 et là encore on voit les Français qui sont assez négatifs. Seulement 40% d'entre eux ont une bonne image du club et ils sont 53% chez les amateurs de football. C'est faible pour un club de la dimension du PSG clairement.
Merci beaucoup Émile Leclerc pour ce baromètre Odoxa RTL Winamax très détaillé, qu'il le sera encore demain avec Philippe Sanfourche dans le journal de 9h sur l'antenne de RTL.
Merci.
À très bientôt Émile, merci. Les messages, les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
D'abord sur Marseille, le message de Toto, se battre chaque année pour se qualifier en Champions League pour au final faire 0 point. C'est le pire cercle vicieux de l'histoire des cercles vicieux, nous dit Toto. Et puis beaucoup de messages évidemment sur Thomas Tuchel, on en a parlé. Message de Clément, à l'époque des Blancs, Zlatan, Mota, Maxwell & Co. Passer cette poule était une formalité. Aujourd'hui on apparaît comme une équipe moyenne qui joue sa survie à chaque match. Thomas Tuchel laissera derrière lui un champ de ruines. 5-3-2 à la maison face à Leipzig, qui en a pris 5 par Manchester United, le monsieur qui devait apporter du spectacle à son arrivée. Je n'ai jamais vu ça sous QSI. Tuchel ne mérite rien, absolument rien.
Il s'était quand même finaliste la saison dernière. Enfin, oui. On l'oublie. Hein.
Merci, Baptiste. Merci beaucoup, Baptiste Durieux. 19h46, une page de publicité. Je remercie d'ailleurs Dominique Sévrac pour sa brillante participation. Florian Gazan également. Cindy Colmenares, restez avec nous en studio. Avec le service des sports, nous allons, après la pub, rendre un petit hommage, et même un bel hommage, un grand hommage à Christophe Dominici qui nous a quitté brutalement cette semaine. Il aurait pu être joueur de foot, il en avait les qualités. Il a été un formidable joueur de rugby et pendant une décennie, il a été également le consultant de RTL aux commentaires partout dans le monde, dans tous les stades du monde, aux côtés de Jean-Michel Rascol. Il intervenait souvent dans Refait le match présenté par Pascal Praud et ensuite dans le multiplex. Donc le service des sports lui rendra un petit hommage.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les 12 dernières minutes dont on refait le match. Ensuite, ce sera RTL Foot avec notamment Eric Silvestro qui nous a d'ailleurs rejoint dans ce studio. Bonsoir Eric.
Bonsoir à tous.
Petit hommage du service des sports à Christophe Dominici qui nous a donc quitté cette semaine. Christophe, présente plus le rugbyman, on connaît ses qualités de consultant, et puis on avait plaisir à l'accueillir dans On fait le match et dans le multiplex que tu présentais avec moi il y a encore un tout petit peu plus d'un an.
Oui, il était là avec Jean-Michel Rascol. Souvent, ils égayaient nos soirées foot un peu tristes quand parfois on avait des matchs un peu moyens. Le rugby venait nous éclairer tout ça, Christophe, avec sa spontanéité, sa gouaille. Voilà, moi je me souviens déjà, la chose qui me marquait le plus, c'est qu'il nous appelait toujours messieurs à l'antenne. À chaque fois qu'il lançait ses interventions, c'est toujours attention messieurs, ah messieurs, là je peux vous dire. Et j'adorais quand il prononçait ce mot messieurs et qu'il rentrait sur l'antenne. J'adorais ça. Et puis Christophe, voilà, c'est tellement de souvenirs, les chroniques enregistrées après jusqu'à minuit parfois. C'était pas toujours l'exercice où il était le meilleur pour l'enregistrement, pas pour l'analyse, ou qui était toujours très, très fine. Aussi parfois les difficultés à le joindre. Voilà, c'était un personnage à part. Parfois on le taquinait. Je sais qu'il aimait bien manger un sandwich à la mi-temps des matchs. Et donc quand il revenait à l'antenne, on sentait parfois qu'il n'avait pas fini la dernière bouchée de sandwich. Et nous, on s'amusait à le lancer. Et forcément, voilà, il avait un petit peu de mal à déglutir et à continuer son propos. C'était un être exceptionnel. Sa spontanéité, surtout la radio, on dit souvent que c'est le média de la spontanéité. Et je trouve que Christophe, comme sur le terrain, était parfois imprévisible. Il fallait parfois le cadrer. Mais c'était extraordinaire. Ça pouvait partir dans des grandes rigolades, tout en étant très bon dans l'analyse. Il nous manque. Il était encore avec nous à l'antenne il y a moins de 15 jours pour le France-Irlande. Et on pense très fort à lui et à sa famille, évidemment.
Merci Eric pour ce bel hommage. Philippe Sansfourche.
Oui, il y avait souvent des parallèles effectivement avec le foot, et moi j'ai le souvenir d'une conversation avec Jean-Michel Rascol, notre monsieur rugby, et lui, à l'époque où l'équipe de France, parce que là on a vaguement trouvé un buteur, j'ai l'impression, avec Ntamack, mais c'est quand même pendant très longtemps, on a tergiversé, ils se succédaient, il y en avait pas un qui avait des bonnes stats. Et moi je n'ai jamais compris pourquoi au rugby, on n'était pas en capacité, alors qu'il y a 15 joueurs sur le terrain, de faire comme au foot, c'est-à-dire que quand il y a un coup franc pour un gaucher, on le donne à un gaucher, et quand il y a un coup franc pour un droitier, on le donne à un droitier. Et au rugby, c'est toujours le même buteur qui tape, même quand on est très excentré d'un côté du terrain, et ben s'il est droitier, il va quand même taper. Et ça, je voulais savoir comment on pouvait changer ça, et si le rugby y avait pensé.
Et tu l'as posé la question.
Mais je me souviens de ses yeux. Il me regardait en disant, mais il est complètement givré celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous remet tout en cause. Bon, voilà, c'était le souvenir que j'avais de Christophe.
Merci Philippe. Je crois que Nicolas Georgerot est en ligne avec nous à proximité. Bonsoir, du Parc des Princes. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir. Alors c'est... Bah, moi, c'est une anecdote, c'est même pas lié au football, c'était vraiment, il était encore joueur, c'est 2007, c'est la finale du top 14, Jean-Michel commentait la finale au Stade de France, j'avais eu la chance de faire les interviews en bord de terrain, et puis ensuite aussi dans le vestiaire, etc., et il m'avait déjà autorisé, il était en train, je me rappelle une discussion avec Dimitri Zarzavski qui commençait sa carrière, et puis je m'étais approché du bouclier, et c'est Christophe qui avait dit, mais tu peux t'approcher, tu peux le toucher, et donc bon, j'avais touché le bouclier, et puis ensuite on avait eu la chance avec 3-4 journalistes de suivre la fête des joueurs du Stade français à l'Hôtel de Ville, et là c'était formidable, il y avait les joueurs, propre, Max hein. Guazzini, les familles, c'était incroyable, et à une heure assez avancée de la nuit, j'étais allé voir le bouclier qui était à côté d'une estrade, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui était arrivé derrière moi qui me dit, il est beau hein, il est beau, et je me retourne et c'était Domi, et on avait du coup on avait discuté, on avait parlé beaucoup de cette symbolique du bouclier, etc. C'était son cinquième titre de champion de France à Christophe, et on avait fait une interview qui avait été assez courte parce que il devait être 4h ou 5h du matin et qu'il n'y avait pas que simplement la finale et le match qui avait laissé des traces, et voilà, c'était un grand moment, c'est aussi une fierté d'avoir comme ça, c'est la première discussion que j'ai pu avoir avec Christophe Dominici, puis ça ramène à l'enfance, il y a plein de choses durant l'adolescence et de ces matchs.
Merci beaucoup Nicolas, en direct du Parc, on retrouvera tout à l'heure pour le match PSG Bordeaux. Je souhaitais que Quentin Vasselin, qui est un travailleur de l'ombre que vous entendez quand même à l'antenne, mais qui est indispensable pour la réalisation et la préparation des autres émissions et qui a donc côtoyé Christophe, je voulais que tu témoignes également, Quentin.
Oui, côtoyé dans les multiplex, les nombreux multiplex où il était là en collaboration avec Jean-Michel Rascol, aussi dans On refait le sport le dimanche pour ses chroniques quand il y avait des matchs de l'équipe de France de rugby, les débriefs. Et c'est un homme aux nombreuses vies. Hein. Il a fait le rugby, il a fait le consultant, il était entrepreneur. Et il racontait des anecdotes absolument extraordinaires dans ses prises d'antenne sur RTL. La dernière fois, on s'est souvenu qu'il avait été dans le jury Miss France. Et là, vous imaginez bien la franche rigolade qui s'en est suivie. Il avait dit que c'était un moment très agréable. Et moi, je me suis replongé depuis 2 jours dans des heures de rush pour réécouter et pour lui rendre hommage demain dans une émission spéciale dans On refait le sport entre 19h30 et 20h présentée par Isabelle Langer. Et il était exceptionnel. Son duo avec Jean-Michel Rascol, ça restera à graver à vie.
On va l'entendre dans un instant. Merci Quentin Vasselin. Isabelle Langer au Stade de France. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Christian. Alors moi, il y a 3 petites choses que je voulais dire de Christophe. D'abord, quand il est arrivé dans les locaux d'RTL,
On l'entendait de loin dans le couloir, on entendait sa voix parce que on fait de la radio, donc on est sensible aux voix. Et on entendait la sienne avec cet accent chantant. Et moi, à chaque fois, je me disais, y a un peu de soleil qui arrive dans cette rédaction, il pouvait être loin, mais on savait que c'était Domi qui arrivait. La deuxième anecdote, c'est on était encore dans les locaux de la rue Bayard et en face, il y avait un café où on allait souvent qui s'appelait Chez Savy et j'avais eu le privilège d'y aller avec Jean-Michel et Domi. On s'était attablé et ça avait duré au moins 2 heures et là c'était Domi, l'homme qui sait raconter des histoires. Alors il nous racontait des anecdotes de rugby, des anecdotes de la vie, son business florissant aussi. Et moi j'étais captivée d'avoir en face de moi ce grand champion qui nous racontait tout ça comme si j'étais aussi son ami alors que Jean-Michel l'est vraiment. Et ça m'avait vraiment touchée ce jour-là. Et la troisième anecdote, c'est 99, après la belle victoire des Bleus contre les All Blacks, où j'avais eu au téléphone son kinésiologue de l'époque, Pierre Cézanneau, qui expliquait tout ce qu'il avait travaillé avec Domi avant ce match pour qu'il fasse ce grand match-là, en lui expliquant que, avec son petit gabarit, il pouvait faire tomber les plus gros et les plus grands en face de lui, mais il fallait les prendre au pied. Cette anecdote-là, on l'entendra demain soir, mais Pierre Cézanneau, une fois que, l'interview, j'en avais tiré une minute pour l'antenne, mais il y en avait 10 minutes, et quand il m'avait parlé des blessures de Domi, de la disparition de sa sœur, ce jour-là, j'avais découvert l'homme derrière le joueur, et cet homme-là, il me fascinait parce que je trouvais qu'il avait une grandeur. Et là, il y a son image en face de nous dans le stade. Et voilà, c'était un petit bonhomme avec un grand cœur.
Merci Isabelle, merci. Et Jean-Michel Rascol, Jean-Mi, évidemment, tu as fait une quantité de matchs à ses côtés. Allez, un flash, une photo, Jean-Michel.
On est en Afrique du Sud en 2001, l'équipe de France est en tournée, elle vient de gagner à Johannesburg, elle va jouer à Durban, on est à Durban, l'équipe de France joue à toucher sur la plage et quelques journalistes se risquent à aller se baigner dans le Pacifique, j'en fais partie, certains font vite demi-tour et puis moi je suis plutôt bon nageur, du moins je crois que c'est le cas, et je me mets à nager puis très rapidement je me rends compte que je suis loin de la plage et donc je décide de revenir, mais j'ai beau faire beaucoup d'efforts, je fais du surplace et donc je commence un peu à paniquer, il y a des hélicoptères qui tournent dans le ciel mais ils ne sont pas pour moi, ils sont pour les surfeurs. Les hélicoptères à Durban repèrent les requins pour indiquer aux surfeurs les zones où il ne faut pas aller justement surfer. Et j'essaye de revenir, je n'y arrive pas et j'essaie de faire des bords comme avec un voilier pour me rapprocher doucement du rivage. J'y parviens tout doucement, je suis épuisé et je me vois mourir là dans le Pacifique bêtement pour être allé me baigner. Et finalement, après beaucoup d'efforts, j'arrive sur la plage exténué, en pleurs, paniqué. Et la Domi arrive vers moi, me dit « Oh, je te surveille depuis le début, toi. Je te vois, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Si j'avais vu que t'étais pas revenu progressivement sur la plage, je serais venu te chercher avec les gardes-côtes. » Voilà, sa bonne étoile ce jour-là veillait déjà sur moi et sa bonne étoile, elle est pour toujours là-haut, au-dessus du Stade de France.
Merci Jean-Michel pour ce joli témoignage. On te retrouve à partir de 20h dans TL Foot et à 21h pour ce match France-Italie et la suite des hommages évidemment pour Christophe Dominici. Vous avez tout dit, donc la gentillesse, l'expertise, son sourire, l'œil qui frise. Je vous propose un extrait d'émission durant le multiplex où c'était finalement, pardonnez-moi cette expression, mais parfois, allez, on se lâche, hein. C'était un bordel organisé. C'était le débat, un débat sur la vidéo. Vous entendrez, vous reconnaîtrez toutes les voix, évidemment, des intervenants du multiplex, dont celle de Christophe Dominici.
Sur la dernière passe, il va faire un arbitrage vidéo. Il y a essai. Ça, c'est sûr, il y a essai. Maintenant, est-ce que sur la dernière passe, il y a un avant?
Ça vous prend comme ça, vous, il y a essai. Paf, pif.
Ah non, mais je dis il y a essai. C'est-à-dire, ils sont dans l'embut. Quoi qu'il arrive, ils aplatissent. Derrière, il y a arbitrage vidéo parce qu'ils considèrent que sur la dernière passe, il y a
en avant. Bon, déjà, le plaquage, il est limite parce que il n'y a pas vraiment plaquage. Et il peut pousser ce ballon, mais en avant pour son camarade Jesse Creel. Et Jesse Creel pénètre dans l'embut, mais il s'est peut-être saisi du ballon en avant. Voilà bien tout le dilemme.
Qui c'est qui touche le dernier, le ballon?
Le plaqueur.
On va voir.
Alors on va voir. Donc,
le plaqueur.
Elzebes qui a le ballon en main. Effectivement. Le moment où il l'éjecte, la mimine.
Boum, la main gauche.
Ce qui est marrant, c'est que Christian Olivier, là, pour la vidéo, le rugby, là, il trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'image.
Vous avez raison de dire pour le rugby.
Oui, c'est ça. Oui, là, vous trouvez qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
Moi, je ne suis pas dans l'analyse, moi.
En foot, vous trouvez toujours que c'est difficile, que l'image ne donne pas sa vérité. Mais en rugby, là, elle le donne bien, là.
Alors, messieurs, les Sud-Africains, en plus, sont replacés pour un coup d'envoi.
Il accorde. Oh là 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 là. Et
et c'est accordé.
Non, non, en plus, honnêtement, hein, le ballon ne part pas derrière, il y a essayé, UG.
Mais qu'est-ce qu'on essaie de juger là? C'est l'en avant du joueur, la passe décisive du Français.
On essaye de savoir qui lâche le ballon et est-ce que le ballon est vers l'avant ou vers l'arrière.
Exactement.
En effet, il n'y a rien d'évident.
Non, non, exactement. Comme il n'y a pas d'évidence.
Prime à l'attaque, prime à.
Exactement.
Trois défaites en trois matchs de l'équipe de France.
Oui, oui, non, changez pas de conversation, Pascal Pro, avec la vidéo, il n'y avait rien d'évident là.
Ah ben si, vous venez de dire le contraire.
Il n'y a rien. Non,
mais vous venez de dire le contraire.
Non, Pascal, sois honnête. Je décrypte un geste. Voilà. Et après, moi, vous en tirez les conclusions que vous voulez, je ne suis pas l'arbitre.
Mais vous savez quoi, moi, je suis d'accord avec Christian.
Je vois qu'il y a une passe décisive.
Non, vous avez dit vous-même, c'est le
Sud-Africain qui touche le ballon dernier.
Ah non, je dis que c'est passe décisive.
En fait, le Français touche le ballon, mais en fait, le Sud-Africain accompagne son geste de la passe et c'est lui qui. Il donne quand même le ballon à son collègue.
18 à 10.
Oh, y a un joueur qui
donc sort. Il faudra que les Français, messieurs, marquent au moins deux fois.
Voilà, au moins deux fois. Christophe Dominici, nous t'embrassons et nous pensons à toute ta famille et à tous tes proches.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.